Bonjour.
Bonjour.
Aide, une association nationale représentée régionalement. De quelle façon? C'est quoi? C'est l'entité Hauts-de-France qu'on a là, l'entité lilloise? Nadine, dites-moi un petit peu.
L'association Aide, c'est une association nationale de loi 1901. Mmh. Et ça s'est créé en 1984 par Daniel Defer. Et aujourd'hui, là, l'association Aide est représentée dans toutes les régions de la France. Et là, on est dans la région Hauts-de-France. Donc voilà, ouais. L'île Hauts-de-France.
Alors, c'est l'association L'île Hauts-de-France Aide.
Aide Hauts-de-France.
Aide Hauts-de-France.
Ouais.
Au début et à la création, Aide, c'est quand arrive le virus du sida pour pouvoir inviter chacun à s'en prévenir. Également des actions de prévention en termes de dépistage. Aujourd'hui, ça reste quelque chose important dans la finalité de l'association, Mickaël, ou alors c'est d'un autre temps?
Effectivement, aujourd'hui, donc, le dépistage pour nous est important. Dans nos objectifs, c'est d'avoir 90% des gens qui sont dépistés, 90% sous traitement et 90% indétectables, afin que l'on puisse mettre fin au virus du sida dans les années 2030.
Voilà, parce que ça reste encore quelque chose qu'il faut rappeler régulièrement. À chaque génération, tout le monde est concerné.
Effectivement, toutes les générations sont concernées, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Également, ces tests sont très importants pour pouvoir savoir où on en est et protéger ses partenaires. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui sont sous traitement, par exemple, et qui sont indétectables, protègent leurs partenaires en étant sous traitement. Donc aujourd'hui, il existe plein de moyens de prévention, autres que le préservatif. Il y a donc ce traitement, mais aussi des nouveaux traitements comme la PrEP, qui permettent d'avoir des rapports et d'être protégé du VIH sans préservatif.
Alors si les traitements existent, c'est pas pour autant qu'il faut vivre comme si la maladie n'existait pas. C'est compliqué que de faire comprendre que des traitements sont mis en place, mais que ces traitements, ça reste quelque chose de compliqué à vivre et que le mieux, c'est de pouvoir vivre sans.
Effectivement, on vit très bien maintenant avec le traitement. On vit même, pour certains, plus longtemps que d'autres personnes sous traitement. Mais on a aussi cette chance dans nos pays européanisés d'être sous traitement et d'avoir ce traitement, ce qui n'est pas le cas partout. C'est pour ça que Aide a aussi une partie du travail qui est en international par Coalition Plus et qui permet aussi, dans certains cas, de donner des droits à des gens qui viennent en France pour qu'ils puissent être sur le territoire et d'être soignés.
Il faut encore faire comprendre que cette maladie n'est pas la maladie de l'homosexualité, si je fais court. Le sida, ce n'est pas uniquement une histoire de gays et de lesbiennes. Nadine?
Non, le sida, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc voilà, ce n'est pas juste pour les homosexuels, ce n'est pas juste pour la communauté LGBTQ+. Donc c'est tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde, le VIH-Sida.
Il faut encore le rappeler, ça, justement. Il y a encore cette idée qui est là, que ça, je risque rien parce que moi, je suis hétéro.
Non. Ce qui est important, c'est nous devons... Toute personne doit connaître sa sérologie, c'est ce qui est important. Parce que là, il y a plein de personnes qui sont des séros ignorants, comme on les dit.
Voilà, alors on parle forcément du sida parce que c'est ce qui a amené la création de l'association, mais ce n'est pas non plus l'unique maladie sexuellement transmissible sur laquelle il faut avoir des actions de sensibilisation et de prévention.
Effectivement, Aide aussi intervient dans le domaine des hépatites, essentiellement B et C, qui sont aussi des maladies qui sont sexuellement transmissibles et transmissibles par le sang.
Ouais,
on parlait des gens qui étaient touchés, comme les hétéros, mais aussi les usagers de produits. Les produits psychoactifs sont touchés par le VIH. Donc tout le monde peut être touché par le VIH, pas forcément les LGBTQIA+.
Voilà, et pas uniquement donc, le sida, d'autres maladies sont là. Il faut savoir s'en préserver. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est toujours, comme on le disait dans ma jeunesse, la capote, le meilleur remède.
Alors, il n'y a pas que la capote maintenant, il y a un éventail de protection. Ça peut être la capote, comme on appelle la capote, mais qui est une capote externe. Il y en a aussi des internes.
Féminines?
Féminines, effectivement, qui sont disponibles pour les gens qui le veulent sur notre stand. Donc, n'hésitez pas, parce qu'elles ne sont pas facilement accessibles. Donc nous, on les a et on vous les met à disposition gratuitement.
Et que de voir déjà à quoi ça ressemble et comment,
oui. comment on les utilise. Voilà. Effectivement, on peut faire des démonstrations sur l'utilisation et comment on met un préservatif interne. Également, bah, il y a, comme on disait tout à l'heure, le traitement des personnes séropositives qui protègent les autres partenaires. Il y a la PrEP, il y a plein de modes de prévention. La capote n'est plus le moyen unique de protection.
Nadine.
Et au stand, on a aussi les autotests VIH. Donc, c'est disponible. Vous pouvez passer. On le donne gratuitement avec une explication derrière comment faire le test seul à la maison. Donc, voilà, il y a tout un éventail des outils de prévention.
On va ensuite parler des droits pour tous avec des avancées. Mais est-ce que vous avez quand même la sensation que la société évolue favorablement ou ça reste quelque chose de compliqué que de faire comprendre que chacun a le droit d'aimer comme il a envie, besoin d'aimer? Je ne parle pas de choix parce que c'est jamais une question de choix, on l'a bien compris. L'envie, le besoin d'aimer et que la sexualité aujourd'hui peut être épanouie et sans danger. Est-ce que ce message, il est mieux compris aujourd'hui dans la société ou ça reste quand même quelque chose qu'il faut encore toujours rappeler et que ça reste compliqué, qu'il y a toujours des points de blocage?
Effectivement, il y a une évolution des mentalités, mais il reste encore des points assez critiques et comme on l'entend maintenant un petit peu plus politiquement, dans des montées de certaines mouvances, il y a encore des blocages par rapport à l'homosexualité.
Ouais. Le mariage pour tous, ça a été quelque chose d'important, avec une réelle avancée, peut-être une des lois sociétales les plus importantes de ces dernières décennies, depuis peut-être l'abolition de la peine de mort, je pense que c'est comparable. Est-ce que finalement le fait d'avoir eu ce débat dans la rue, ces confrontations, ça n'a pas finalement permis de dénouer des choses, même si ça n'a pas été simple, et même si aujourd'hui eh bien, il y a toujours des opposants?
Effectivement, tu parlais de la peine de mort. Moi, je parlerais essentiellement des dépénalisations aussi de l'homosexualité sous Mitterrand dans les années 81. Ça a été aussi une très, très grande avancée.
83, la dépénalisation, je sens.
83
Il me semble. Oui, 83. Le fait que ce ne soit plus reconnu,
oui,
en tout cas, comme une maladie.
Comme maladie mentale, tout à fait. Voilà. Donc, c'est une très grande avancée. Et donc, oui.
Ouais, et finalement, ce débat qui a eu lieu dans la rue avec ces oppositions, est-ce que ça a permis quand même à la société de grandir et de mieux s'accepter?
Peut-être de mieux connaître, parce que ce que l'on a peur, c'est ce que l'on ne connaît pas. Là, en connaissant plus les gens, en sachant que voilà, son voisin que l'on ignore ou qu'on rencontre tous les jours peut être homosexuel et qu'il est comme soi, hormis la sexualité, les homosexuels, les lesbiennes, les bi ont la même vie que tout le monde. Mmh. Ils payent leurs impôts, ils font leurs achats, ils ont une vie de couple. Enfin, il n'y a que la sexualité qui change, sinon voilà, c'est des personnes comme les autres.
Ouais. Ce qui fait peur, c'est l'inconnu.
Voilà.
Et puis, parfois, il y a des comportements qui, là, deviennent véritablement problématiques. On peut rappeler que la discrimination, eh bien, est un délit aujourd'hui.
Effectivement, oui. C'est dans le pénal. Effectivement. Ouais. C'est condamné pénalement.
Et par rapport
Nadine,
aussi,
bien en face du micro, s'il vous plaît.
Et par possible. Rapport aussi à ces inégalités d'accès aux droits, aide demande l'arrêt des expulsions et la délivrance de titres de séjour pour le malade étranger et les personnes persécutées à titre de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Et aide demande aussi une reconnaissance et la garantie des droits pour les personnes trans.
Alors, on peut juste expliquer que des personnes en danger de mort dans leur pays n'ont pas d'autre choix que de quitter le pays pour rester en vie et qu'ils ont besoin à ce moment-là de trouver un pays d'accueil, une nouvelle terre.
Tout
on pourrait
fait.
Penser qu'en France, on a cette culture de l'asile, sauf que quand les gens arrivent, parfois, on leur demande de prouver leur homosexualité. comment je prouve mon homosexualité? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que de devoir prouver mon homosexualité?
C'est ce qui est compliqué, hein, de prouver, parce que là, déjà, en quittant le pays, vous avez fui, il y a des conditions déplorables, pas possibles, donc vous n'avez même pas de traces et tout, mais quand on vous demande de prouver, c'est aussi très compliqué de le faire.
À ce moment-là, on fait quoi? On interpelle des avocats? On fait quoi? Comment on peut venir en aide à ces personnes confrontées et qui risquent une expulsion, un retour au pays, et donc qui risquent leur vie à ce moment-là? Il faut le rappeler, il y a des vies derrière.
On se rapproche d'associations comme Aide qui soutiennent ces gens. Et donc nous,
et
on a aussi des avocats.
Et plein d'autres associations LGBT qui ont mis aussi en place des avocats qui accompagnent et qui soutiennent ces personnes victimes.
Dans le droit d'asile, ce qui est compliqué, c'est de prouver donc sa sexualité pour les homosexuels, mais pour les séropositifs aussi, que dans leur pays, il n'y a pas de traitement et qu'ils doivent venir en France parce que c'est le seul pays qui peut leur venir en aide. Donc il faut prouver donc pour les homosexuels leur sexualité, mais aussi pour les gens qui sont séropositifs, que dans leur pays, ils n'ont pas accès au traitement et que du coup, ils sont obligés de venir en France pour avoir ce traitement.
Ouais, mais alors, ça pourrait être terrible parce qu'on se dit qu'une maladie, on arrive à la détecter. Enfin, je veux dire, voilà, on peut prouver qu'on est malade, qu'on a contracté la maladie. Il va falloir quoi? Que les gens tombent malades pour pouvoir fuir leur pays dans des pays où il y a une répression des homosexuels. C'est un truc incroyable, ça.
Ben, pas seulement la répression, mais il y a aussi un problème de traitement. La disponibilité de traitement, c'est ça qui pose problème. C'est aussi ce que Aide aussi demande, l'engagement diplomatique et financier de la France au niveau international pour une augmentation de la contribution française au Fonds mondial à la hauteur de 2 milliards d'euros dans le cadre de la conférence des reconstitutions de ressources de fonds. Donc voilà, et cela permettra aux autres pays du Sud d'avoir un traitement aussi.
La France a les moyens de faire ça. Il suffit quoi? De faire financer cette opération par les laboratoires qui, eux, font de l'argent avec ça. Et voilà, la logique, elle serait là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas marchandiser la santé, et que si les laboratoires payaient un petit peu des impôts, ça permettrait à la France de financer la mise à disposition des traitements pour les pays qui n'ont pas accès à ces traitements.
Tout à fait, l'expérience a fait qu'en 2019, il y avait ces récoltes de fonds et au pays du Sud, vraiment, on a des informations via notre structure Coalition Plus, que beaucoup de personnes bénéficient de ces traitements. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin. À la fin, donc il faut encore faire l'appel aux fonds pour que ça continue.
Aide, c'est efficace, ça peut devenir efficace parce que derrière il y a de l'engagement, il y a du militantisme et il y a des adhérents qui amènent toutes leurs compétences. C'est ça, vous avez toujours besoin des compétences de chacun, que ce soit des compétences du corps médical, des compétences de sociologue, des compétences d'avocat, de juriste. C'est là où est la force de Aide et c'est là où vous avez besoin que chacun puisse adhérer à l'association pour amener, en fonction de ses compétences, son petit, sa contribution à la lutte.
Effectivement, c'est grâce à tous ces profils, tous ces gens qui nous viennent en aide, qui sont souvent volontaires, que l'on peut avancer, que l'on peut faire avancer la société, que l'on peut faire des plaidoyers pour pouvoir
à la transformation sociale.
Voilà. Parler de plaidoyer, je parle de lutte. Oui. C'est un terme différent, mais c'est une façon également, c'est en allant faire du lobby. Finalement, ouais. Le plaidoyer, c'est une forme de lobby. Il faut faire un lobby politique aujourd'hui.
Un lobby positif, pas un lobby négatif. Un lobby vraiment pour faire avancer la société et faire évoluer les mentalités.
Les politiques ont pris la pleine mesure, finalement, des inégalités qui existent et des progrès à faire. C'est pas encore gagné.
C'est tout à ça. Ça vient progressivement. Là, on vient juste de gagner la bataille par rapport au crédit.
On va en parler.
C'était interdit pour les personnes vivant avec VIH. Là, maintenant, il y a la possibilité d'octroyer un crédit. Donc, c'est toujours le fruit de plaidoyer.
Alors, c'est-à-dire qu'il y avait des questionnaires de santé?
Tout à fait. Et maintenant, il n'y en aura plus.
Il n'y aura plus de questionnaires de santé?
Non.
C'est-à-dire qu'on aura, même, et hélas, si l'on est malade, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un choix,
tout à fait.
Et c'est une fatalité, on aura la possibilité d'obtenir un crédit comme une personne en bonne santé et valide.
Effectivement. Et pourquoi stigmatiser une personne qui serait séropositive sous traitement stable et qui aurait une expérience de vie, voire même plus élevée que, qu'une personne de population générale, alors que, voilà, c'est pas normal. Il y a vraiment une discrimination. Donc, c'était vraiment... Alors, il fallait travailler sur ce domaine.
La loi est passée.
Oui.
Les décrets d'application sont-ils publiés ou pas encore, ou est-ce, à quel moment? Parce qu'on sait très bien qu'une loi peut être votée et que si aucun décret n'est adopté, la loi va exister mais ne sera jamais mise en application. Les décrets, on a une idée, on a un calendrier à partir de quand cette loi va rentrer effectivement en vigueur en France. Est-ce que vous avez la réponse? Peut-être que je vous pose la colle là, comme ça, en direct. C'était pas un piège.
Non, la loi est votée, mais juste de mesures d'application.
Ouais.
Je pense que bientôt, là, ça sera aussi sur pied et les personnes vivantes avec VIH pourront en bénéficier. Parce qu'il faut savoir, le VIH n'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est un virus. La personne vivante avec VIH sous traitement a une expérience de vie même plus que une personne séronégative. Donc être porteur ou porteuse de VIH, c'est pas une maladie.
Mais d'où la complication également que de faire de la prévention en disant attention, hein, le sida, c'est pas non plus n'importe quoi. Voilà, on peut vivre, mais ça reste quelque chose dont il faut absolument se protéger. Il est important que les malades aient les mêmes droits. Il est important que les malades puissent vivre, j'ai envie de dire, de la meilleure façon possible et voire confortablement avec la gestion de la maladie. Mais attention, ne banalisez pas cette maladie. C'est là toute la problématique à laquelle on est aujourd'hui confronté.
C'est ça, c'est pour cela qu'on est sur le terrain tout le temps pour transmettre le message. Effectivement, le VIH existe, la maladie aussi sida existe, mais quand on met les outils de prévention en marche et on est toujours mis à l'écart par rapport à ces virus ou à cette maladie. Donc la personne qui est sous traitement donc, vit très longtemps et vit en parfaite bonne santé avec son traitement et tout va bien. Mais la personne qui est déjà en phase de maladie, la maladie c'est le sida, mais le VIH ce n'est qu'un virus.
Aide, c'est une association qui également, de temps en temps, n'a pas hésité à sortir du champ du correctement possible, du politiquement correct, qui a eu des coups d'éclat pour les aînés. On se souvient d'un préservatif géant sur l'obélisque, sur des manifestations où vous êtes partis à l'affrontement, au clash, même parfois de façon... pas forcément violente, mais en tout cas directe. Aujourd'hui, on n'est pas sur ce temps-là. Vous savez également manier, j'ai envie de dire...
Le politiquement correct.
Le politiquement correct et le temps festif, ça reste important également dans la revendication. Parce qu'aujourd'hui, ici, on est sur un temps de revendication. Il ne faut pas l'oublier. On réclame l'égalité pour tous, la liberté pour chacun, chacune, mais de façon joyeuse.
Il y a différents moyens de militer. Ça peut être autant, comme là, festif, mais à certains moments, quand on n'est pas écouté, quand vraiment nous qui sommes sur le terrain sonnons l'alarme et qu'on ne nous écoute pas, il faut trouver d'autres moyens. Pas dans l'agressivité, mais il faut faire des coups d'éclat. Et c'est comme ça qu'on nous écoute.
Ah, juste pour pouvoir être sûr de savoir que, en tout cas, quand une inégalité existe, il faut la dénoncer. Et puis ne pas rester indifférent. Le pire, c'est quoi? C'est l'indifférence. Au-delà de la violence, alors évidemment, les actes violents sont répréhensibles et sont vraiment condamnables, ne doivent pas exister. Aujourd'hui, on ne doit pas être violenté par son choix de vie. Mais l'indifférence, sauf si elle est bienveillante, voilà. Et du moment où l'égalité existe, une fois qu'on aura l'égalité, L'indifférence, ce sera génial.
On y aura le droit, ça ouais. sera notre but.
Vous avez personnellement été confronté, vous, à des moments de discrimination où vous avez dû aller prendre sur vous ou réagir?
Oui, j'ai été victime d'homophobie et encore pire, venant de médecins.
C'est-à-dire
J'étais malade, j'avais une grippe et en fait, plusieurs médecins m'ont dit « bah vous inquiétez pas, c'est les premiers symptômes du sida, mais ça se guérit bien ». Parce que je leur avais dit que j'étais homosexuel et j'y étais allé avec mon compagnon.
Ouais.
Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir, y compris avec les médicaux. Et donc là, bientôt, on va justement travailler sur ce domaine, sur la sérophobie et l'homophobie.
Soigner, voilà.
On se questionne également beaucoup sur les thérapies de transition qui existent encore. Là aussi, AIDS se mobilise pour que de telles pratiques n'aient plus lieu, ou alors c'est quelque chose que vous connaissez, mais ce n'est pas véritablement le champ d'action de AIDS. Il y a d'autres structures pour lutter contre ces thérapies de transition.
Tout à fait. AIDS travaille aussi en étroite collaboration avec d'autres associations partenaires parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a d'autres associations qui font aussi bien que nous dans d'autres champs. Donc là, on se met ensemble, on met ensemble notre force pour réclamer et être encore plus fort.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? De quoi a besoin l'antenne des Hauts-de-France de l'association AIDS?
Plus de la subvention.
Parce d'accord. Avis aux politiques.
Ouais, voilà. Parce que la lutte demande de moyens, demande vraiment des subventions ces derniers temps avec nos partenaires officiels. On a vraiment du mal par rapport au financement. Il y a d'autres financements qui disparaissent. Et aujourd'hui, si l'association Aide Hauts-de-France tient encore, c'est parce qu'il y a cette force nationale qui se soutient. Il y a le siège soutient aussi.
Mais le besoin de financements régionaux, départementaux en Hauts-de-France seraient les bienvenus?
Oui, tout à fait, parce qu'il y a d'autres actions où on les faisait avant, mais faute de financement, on a réduit un peu nos activités. Et il y a d'autres actions aussi en privilège. Donc, mais nous voulons vraiment être dans notre terrain, faire vraiment les actions pour parler à la population, faire la prévention, tout ça. Et il y a vraiment un manque de moyens par rapport à ça.
Est-ce qu'on peut également soutenir l'association en étant citoyen par de simples cotisations? C'est important également que...
Effectivement, il y a ces cotisations où les gens peuvent nous aider, mais également de devenir volontaire auprès de AIDS. On a aussi besoin d'aide humaine pour nous accompagner dans nos actions. Comme aujourd'hui, voilà, ouais. nous sommes deux vraiment salariés qui sommes là, mais il y a aussi deux volontaires qui nous soutiennent. Et sans eux, on est rien. On a besoin de leur aide. Parce que voilà.
Le bénévolat, ça reste quelque chose d'important également. Et puis ensuite, la possibilité de soutenir, d'envoyer un don à l'association, ça reste important. Mmh. Et puis d'amener également ses compétences à titre bénévole, son engagement pour lutter à vos côtés autour d'une juste et noble cause qui n'aurait pas dû être défendue finalement. C'est dommage hein, de devoir lutter pour obtenir une égalité qui ne devrait pas être discutée même.
Tout à fait.
Merci beaucoup. On vous contacte sur le site internet. On tape Aide Hauts-de-France.
Aidehauts-de-France.org.
Oui. Voilà. Et on a tous les contacts qui vont bien poursuivre votre actualité. Et puis, au besoin, pouvoir venir également vous apporter un coup de main le moment et le temps venu.
Et effectivement, aujourd'hui, en plus, si vous vous posez des questions sur votre statut sérologique, hépatite B, hépatite C, VIH, n'hésitez pas, on est là, on dépiste avec bienveillance, confidentialité, non-jugement. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer aujourd'hui.